Je vous invite à prendre vos Bibles. Alors, on va continuer le livre des Actes que nous avons commencé. Et on va prendre Actes 4 et lire d'abord versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc nous sommes ici devant la première église de Jérusalem. Ils étaient maintenant plusieurs milliers de chrétiens qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Ils avaient tous reçu le baptême du Saint-Esprit, ce qui signifie que l'Esprit de Dieu était entré dans leur cœur. Ils avaient ce témoignage intérieur, ils étaient enfants de Dieu. Et puis, ils étaient aussi saisis par la présence de Dieu qui était dans cette église, qui se manifestait de diverses manières, notamment par les miracles des apôtres. Au verset 31, on lit que, juste avant, donc, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Donc une manifestation encore là qui montrait que Dieu était présent et puis l'Esprit les remplissait. Donc ça c'est l'Église primitive, hein, l'Église chrétienne primitive. Beaucoup d'entre eux étaient pauvres parce qu'il n'y avait pas de système social, pas d'entraide comme on peut le voir aujourd'hui, enfin pas d'aide du gouvernement aux plus démunis. Et ils étaient devenus une même famille, des enfants sous un même père, le Dieu créateur. Alors immédiatement, il s'est créé une solidarité naturelle. C'était pas possible. Ils pouvaient pas laisser leurs frères et sœurs qui étaient pauvres, qui étaient dans la misère, qui étaient en train de mendier à la porte du temple, les laisser comme ça, ou bien laisser les étrangers, laisser les veuves, laisser les orphelins. Alors, eh bien, il y a un désir vraiment d'aider. Et on voit que dans cette première église, eh bien, il n'y avait plus de pauvres, hein, il n'y avait plus de veuves qui étaient laissées de côté parce qu'on s'aidait. Il n'y avait plus de malades et d'infirmes. Regardez Actes 5, 14, 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc il n'y avait plus de malades, il n'y avait plus d'infirmes, il n'y avait plus de gens tourmentés, parce que eh bien, les apôtres guérissaient tous, sans exception. Et cette église toute jeune de Jérusalem, elle vivait deux choses, elle vivait l'unité et elle vivait l'amour. D'abord l'unité, donc chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc comme il n'y avait qu'un seul esprit qui était en train de remplir les cœurs de chacun des chrétiens, alors eh bien il y avait une unité. Forcément, l'esprit n'était pas divisé avec lui-même, ils étaient accordés et il y avait l'écho. Si l'un disait « je vous propose qu'on prie », l'écho de l'esprit dans leur cœur disait « oui, il faut prier ». Et hop, tout le monde priait. Donc il y avait une vraie unité, un vrai désir d'avancer dans une même direction. Et c'est normal, la Bible dit que Christ est la tête et quand la tête commande aux membres, alors eh bien, voilà, il y a une unité, il y a un désir d'aller ensemble dans la même direction. Et puis ensuite, il y avait l'amour. Donc on voit une marque profonde d'amour dans cette première église. Verset 32, la deuxième partie. « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun. » Verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et c'est assez extraordinaire ici. On pourrait dire c'est le communisme avant l'heure. Et la politique a essayé de reproduire cela et elle n'y est jamais vraiment arrivée. Dans la durée, on voit que les beaux principes d'égalité et de partage, ben ça marche pas. Finalement, ça marche pas. Et pour preuve, on voit que partout, ça a périclité. Pourquoi ? Parce que ben, dans le cœur de l'homme, il y a le péché. Le cœur est mauvais, il est tortueux. Et même si certains sont généreux et idéalistes, il y a toujours quelqu'un de méchant à côté pour profiter, finalement, et venir eh bien, se servir et dépouiller ceux qui ont un peu de bonté. Pourquoi ? Parce qu'il y a le péché dans le cœur. La Bible dit, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. » Ça n'existe pas. Tous les hommes sont pécheurs. Mais ici, dans le livre des Actes, on est dans quelque chose qui... Il y a une différence ici. Il y a quelque chose de différent. C'est qu'on est en présence de pécheurs, oui, mais de pécheurs qui sont repentis. C'est des pécheurs, comme tous les autres, mais qui sont convertis à Jésus-Christ. Et puis c'est des pécheurs, mais qui sont aussi remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'il y a un désir, une volonté d'obéir à Dieu. Et on peut dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui puisse changer le cœur d'une personne et faire qu'il y ait de la bonté et de la générosité et que ça puisse eh bien, se faire dans plusieurs cœurs qui vivent ensemble et qui finalement eh bien, s'aiment et manifestent cet amour les uns envers les autres. Peut-être qu'il y en avait 500 qui étaient dans la souffrance, il y en avait 1000 qui étaient dans la pauvreté et puis ils se sont tous dit « mais il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut faire quelque chose. » Et leur cœur transformé les a poussés individuellement à faire des dons jusqu'à vendre leur propriété ou une de leurs propriétés, je ne sais pas. Et c'est ainsi que, eh bien, on lit Joseph, surnommé Barnabas, a vendu un champ qu'il possédait. Et finalement, on peut se dire, c'est pas vraiment le communisme. Quelqu'un a dit une chose intéressante, il a dit, nul ne disait, tout ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est le communisme. Mais tous disaient, tout ce qui est à moi est à toi. Et ça, c'est plus la pensée chrétienne. Voilà, tout ce qui est à moi est à toi, et pas tout ce qui est à toi est à moi. Et c'est très important à comprendre que ce n'était pas une générosité qui était forcée, qui était obligatoire, hein, comme parfois eh bien, on voudrait l'imposer. La Bible n'est pas contre la propriété personnelle. D'ailleurs, pour pouvoir donner, ben, ça sous-entend de posséder. Hein. C'est celui qui possède qui peut donner. Par contre, la Bible est contre l'égoïsme et elle est contre l'amour de l'argent. Et c'était ici un beau fruit, un bon fruit, le fruit de cœur qui était régéné par l'Esprit du Seigneur. Et cet amour pratique a produit même quelque chose de plus. Regardez, verset 33, donc chapitre 4. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi ? La suite dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc, le fruit de leur amour pour leurs frères et sœurs qui étaient les plus démunis a produit une grande grâce qui reposait sur cette église. Parce qu'il y avait de l'amour, alors eh bien il y avait Dieu aussi qui était là. Il y avait la présence de Dieu qui était au milieu d'eux et il rendait donc ces chrétiens témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et on peut dire que le message de l'évangile, il ne peut prendre appui que sur une vie chrétienne pratique, qui met en pratique par des œuvres, par des bonnes œuvres. Ça, c'est très important. Jacques disait, la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi, elle doit produire des œuvres. Si j'ai cru, alors je vais agir, je vais faire quelque chose. Et ce fut immédiatement le cas dans cette première église. Donc on est ici, on est dans un cadre qui semble parfait, quoi. Hein. C'est presque, on pourrait dire, paradisiaque, là, hein. L'amour, l'entraide, l'unité, la charité. Mais il va y avoir du sable qui va se mettre dans l'engrenage. Et quand on ressent de l'amour, quand on ressent de l'unité, de la communion, du partage, attention. Attention. Parce que l'ennemi de Dieu, le diable, eh bien, il veut venir mettre du sable. Et il veut empêcher cela. Le diable n'aime pas la communion. Il n'aime pas la paix dans l'église. Il n'aime pas que nous nous aimions les uns les autres. Il ne veut pas ça. Alors, ce qu'il va faire, eh bien, il va essayer de mettre du péché dans nos cœurs, de susciter le péché, de le titiller par des mauvaises intentions, par de la jalousie, par de l'égoïsme, par de l'orgueil. Et nous, eh bien, on est le terreau qui lui permet de faire croître ces mauvaises œuvres. Nos cœurs sont comme un terreau pour le mal. Il vient planter une chose et puis ben voilà, ça prend racine et puis ça pousse. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « Garde ton cœur de plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors on va lire la suite de notre texte. Regardez, chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et ici, on a un couple chrétien. Ils font partie de l'église primitive et leur foi en Jésus-Christ les a même poussés à vendre une propriété, comme Barnabas l'a fait. Mais il y a un problème, c'est qu'ils ne vont pas être honnêtes. Ils ne vont pas être très honnêtes. Alors le monde dirait, oh, c'est pas grave. Certains n'y verraient même pas un péché. Mais il y a bien un péché qui est commis ici, qui est grave, et on va le voir ensemble. Et on voit que Dieu n'a pas fait grâce cette fois-ci. Parce que c'était quelque chose qui risquait de ruiner le témoignage de cette première église de Jérusalem. C'est quelque chose qui allait provoquer la ruine de l'unité, de l'amour, de tout ce qui se passait, de l'entraide, de la confiance. Et j'aimerais mettre l'accent ce matin sur le fait que l'amour véritable, il ne peut pas exister s'il n'y a pas de la transparence et de la vérité entre nous. Il y avait dans cette église un amour qui était précieux, qui venait d'en haut, mais soudain, il y a un mauvais esprit, un esprit de ténèbres, un esprit de mensonge qui a pénétré dans cette église. Et ce mauvais esprit allait tout détruire, détruire la confiance qui permet justement l'amour. J'aimerais reprendre, donc il est dit, « Mais un homme, Ananias, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. » Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et quelqu'un a dit, si l'homme est la tête, donc celui qui doit mener normalement le foyer, la femme est le cou qui doit tenir la tête droite. Intéressant, hein ? Et manifestement, dans ce couple, l'épouse n'a pas retenu son mari de mal agir. Il y avait une mauvaise intention à l'origine, mais on devine par ces textes que Saphira n'a rien fait pour dissuader son mari de faire une telle chose. Peut-être même qu'elle l'a conforté dans cette décision coupable. Et on ne doit pas oublier que notre amour pour notre conjoint doit passer après l'amour pour le Seigneur. D'abord l'amour pour le Seigneur. Dans le livre du Deutéronome, on lit ceci. « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, donc ton conjoint, ou ton ami qui, comme ta propre âme, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux que toi ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre, tu ne lui céderas pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié pour lui, tu n'auras pas compassion de lui, tu ne le couvriras pas, tu ne le couvriras pas. » Autrement dit, tu vas refuser de pécher et tu vas refuser de le suivre dans son péché, même si c'est quelqu'un de très proche dans ta famille. Et c'est précisément ce qui s'est passé ici. Ananias a voulu faire quelque chose et sa femme, eh bien, l'a suivi dans son péché. Et si Dieu permet qu'on marche ensemble, eh bien, c'est pour qu'on s'exhorte plutôt dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la fidélité, pas pour qu'on s'encourage à faire des mauvaises choses. Vous connaissez ce verset de l'Ecclésiaste qui dit « Deux valent mieux qu'un, s'il tombe, eh bien l'un est là pour relever l'autre. Hein. Mais si on tombe et qu'il n'y a personne qui est là pour relever l'autre, ben, c'est une catastrophe. » Et c'est ce qui s'est passé dans ce couple. Et de même, entre frères et sœurs, on est aussi là pour bien se soutenir, s'exhorter et dire « Mais attention là, tu ne devrais pas faire ça. » Versets 3 et 4. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et on a ici le péché d'Ananias. Hein. Dieu n'obligeait personne à vendre quoi que ce soit pour aller le donner aux pauvres. Il n'obligeait personne. Et c'est très important à comprendre. Dans les Écritures, et Tristan nous le rappelait ce matin, c'est que Dieu ne force pas la générosité, il n'oblige pas à la générosité, il l'appelle simplement. Et en 2 Corinthiens, on lit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc Dieu veut quelqu'un qui donne toujours de bon cœur, sans qu'il se sente contraint, forcé de donner. Vous n'êtes pas obligé de donner quand la corbeille des offrandes passe, hein. Sachez-le, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous avez envie de le faire de bon cœur, alors eh bien faites-le. Et personne n'obligeait Ananias et Saphira à vendre leur propriété. S'ils n'avaient pas été vendus, donc ce champ, ne te restait-il pas ? Autrement dit, mais tu pouvais le garder ton champ, tu n'étais pas obligé de le vendre. Et même en l'ayant vendu, une fois que tu l'avais vendu, mais tout l'argent était à toi. Pierre dit, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Mais oui, c'était à toi. Tout était à toi. Ton argent t'appartenait. Tu pouvais en faire ce que tu voulais. Mais alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils ont fait croire qu'ils donnaient l'intégralité du prix du champ, de la vente de ce champ, et c'était pas vrai. Et là, ils mentaient. En fait, ils ont voulu paraître pour plus spirituels qu'ils ne l'étaient en réalité. Plus généreux qu'ils ne l'étaient en réalité. Mais Dieu, qui connaît les cœurs, n'a pas accepté ce mensonge dans son Église. Et Dieu veut qu'on soit transparent. Et la transparence, eh bien, c'est d'abord avec le Seigneur. Il faut qu'on sache que nous pouvons tout dire au Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. On peut vraiment tout lui dire. on peut lui dire les secrets les plus intimes de notre cœur. On peut lui confesser nos pensées les plus laides. On peut reconnaître devant lui les tentations les plus coupables. Il n'y a absolument rien qu'on ne puisse cacher au Seigneur, on peut tout lui dire. Et finalement, c'est ça, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, ben c'est voilà, tout dire. Voilà, c'est, mon cœur, il est comme ça. Il est comme ça. Je suis devant toi, Seigneur. On supporte pas quelqu'un, ben disons-lui. Confessons-lui, Seigneur. On aime l'argent, ben disons-lui. Confessons-lui. On aime être mis en avant, eh ben disons-le au Seigneur. Pardon, Seigneur. Il faut être transparent avec lui. Et il n'y a que comme cela que finalement on laisse accès à notre cœur. C'est quand on lui dit tout qu'alors il a accès à notre cœur, qu'alors il peut nous dissuader parfois de faire certaines choses, qu'alors il peut changer notre cœur pour nous amener à faire ce que nous devrions faire. Mais on voit aussi par ce texte que la transparence, elle est aussi avec les frères et sœurs. Parce que si on cache la vérité, si on la dissimule, un jour, ça se sait. Ça se sait. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Et la vérité, elle finit toujours par se savoir. Et notre histoire ce matin, ben ça parle d'un problème de transparence. Ananias a menti. Mais on peut se poser la question, à qui a-t-il menti? Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias, eh bien, il pensait qu'il était en train de mentir à des hommes. Parce que, ben, voilà, sa relation, elle était avec des hommes, elle était avec les apôtres, elle était avec l'Église, elle était avec les frères et sœurs. Donc, il croyait qu'il ne mentait qu'à des hommes. Mais en réalité, en mentant à l'Église, il était en train de mentir à Dieu. Il était en train de mentir à Dieu. Et on a là une vérité, c'est que derrière l'Église, eh bien, il y a Dieu. Il y a toujours Dieu. Et ce qu'on fait à l'Église, eh bien, finalement, on le fait à Dieu. Et on retrouve ça un petit peu plus loin dans les Actes, avec Saul. Vous vous souvenez? Saul qui persécutait, qui emmenait devant les tribunaux les chrétiens. Et puis Jésus qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, quand on frappe, quand on ment, quand on fait du tort aux enfants de Dieu, eh bien, on frappe, on ment Dieu lui-même. On est en train de faire ça à Dieu. Ananias était donc en train de mentir à Dieu. Comment la chose lui est-elle venue? Comment en est-il arrivé là? L'apôtre Pierre dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Et là, on peut trouver ici l'origine du péché d'Ananias. À l'origine, on voit le diable n'était pas loin. Ce qui signifie que la pensée de faire une chose aussi laide, elle lui a sûrement été soufflée par le diable. Imaginez, Ananias, tiens, je vais vendre mon champ. Et puis je vais en donner une partie comme Barnabas. Puis je vais en garder une partie pour moi. Ah oui, mais mes frères et sœurs, ils vont se dire, oh là là, il n'est pas très généreux, lui. Oh. Et puis le diable de lui souffler, mais t'as qu'à en garder une partie, mais tu ne le dis pas. C'est vrai, je pourrais en garder peut-être une partie et puis pas le dire. Ben oui, tu n'as qu'à rien dire. Personne ne le saura. Et hop, voilà. Et il faut savoir que le diable, parfois, nous souffle de faire des choses que nous ne devrions pas faire. Et Satan a rempli le cœur d'Ananias de mauvaises pensées. Maintenant, ça ne déculpabilise pas pour autant Ananias. Et on le voit dans le texte. Hein, parce que même si la pensée coupable lui est venue d'ailleurs, il n'était pas obligé d'accepter cette pensée. Il n'était pas obligé de l'approuver, de l'entretenir, de la garder dans son cœur. Je ne sais plus qui a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut les empêcher de se poser sur nos épaules. Et c'est ce qui s'est passé. Et certaines pensées, il ne faut pas les accepter. Pierre dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et il est clair qu'au final, le coupable, c'est Ananias, hein, qui a gardé cette pensée, qui l'a méditée. Et quand on caresse une pensée, eh bien, elle finit par devenir une action. Les pensées caressées deviennent des actions, à chaque fois. Alors, eh bien, on voit Dieu la punit en lui reprenant la vie. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et Dieu ne voulait pas que ce péché-là, dans l'Église, soit regardé comme sans importance. Il ne voulait pas, probablement aussi, que la bénédiction qui était sur cette Église s'arrête à cause de l'hypocrisie, du mensonge qui était dans l'Église. Alors, eh bien, il a fait ce qu'on appelle un jugement exemplaire. C'est quelque chose qu'on ne revoit pas expliquer en détail un jugement comme ça, après, quand on lit la suite des Écritures. Néanmoins, il y a un verset qu'on oublie souvent, c'est dans 1 Corinthiens 11, et ça concerne la scène. Si vous vous souvenez de ça, il est dit qu'il ne faut pas prendre le pain et le vin d'une manière indigne, coupable, devant le Seigneur, parce qu'on peut boire et manger un jugement contre soi-même. Et Paul ajoute, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et c'est un verset, on fait pas forcément attention, mais ça veut dire beaucoup étaient malades à cause du péché. Ça ne veut pas dire que toutes vos maladies sont dues au péché, mais c'est clair qu'il y avait des infirmités et des choses qui n'allaient pas dans certaines personnes et c'était dû à leur péché. Et puis d'autres étaient morts. Un grand nombre étaient morts, incroyable, à cause du péché. Et Ananias, eh bien, aurait pu se juger lui-même afin de ne pas être châtié par le Seigneur, et il ne l'a pas fait. Et donc, il y a eu ce jugement exemplaire qui a produit une grande crainte, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez versets 7 à 10. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et Saphira n'était pas obligée de suivre son mari. Et c'est un petit peu comme si, quand Pierre lui a posé la question, Dieu lui permettait de se désolidariser de son mari. Et là, eh bien, ça a dû faire quelque chose quand elle a entendu cette question. Et elle pouvait dire, ben non, 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 c'est pas à ce prix-là. Et là, eh bien, elle n'aurait pas été jugée elle-même. Mais elle n'a pas désapprouvé. Parce que, ben, elle a dû approuver aussi la pensée, la caresser, se dire, ben, pourquoi pas. Si bien que, elle aussi, a menti ouvertement aux disciples. Et on a pour charge de prévenir nos bien-aimés lorsqu'ils pêchent ou lorsqu'ils sont tentés de pécher et non pas de les cautionner et de les encourager dans leur péché. Si Saphira avait dit à Ananias, non mon chéri, ne fais pas ça, c'est pas une bonne chose, c'est malhonnête, eh bien peut-être qu'Ananias ne l'aurait pas fait. Et finalement, eh bien voilà, ça se serait bien passé. Mais ce n'est pas ce qu'elle fit. Résultat, eh bien, elle est tombée aux pieds des apôtres. Et verset 1, 11, de nouveau, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Imaginez quelqu'un d'entre nous s'effondre d'un seul coup. C'est quelque chose, quoi. Hein? Eux, toute l'église, là, venait d'assister à un châtiment du Seigneur. 2 personnes étaient décédées. C'était effondré comme ça. Là, c'était... Tout le monde s'est arrêté. Je peux vous assurer qu'après, il n'y avait pas de mensonge. Ils ne se mentaient plus les uns aux autres. Là, ils étaient tous en vérité et en transparence. En Colossiens, on lit cette exhortation, renoncez aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Et c'est une parole qu'il faut prendre au sérieux. Ne mentez pas les uns aux autres. Et si vous avez souvenir ce matin d'avoir menti à un frère, à une sœur ou à quelqu'un, alors peut-être c'est bien d'aller voir ce frère, cette sœur et dire « J'ai menti ce jour-là, je te demande pardon, je te demande pardon. » L'amour dans l'Église, il est possible que s'il y a de la transparence et de la vérité. S'il y a un doute sur une personne, un doute sur son honnêteté, un doute sur elle, eh bien après, il n'y a plus d'amour. Il ne peut pas y avoir l'amour. Il y a un blocage, il y a de la réticence, hein, parce qu'on se dit, mais voilà, si ce n'était pas vrai là, ben peut-être ça ne sera pas vrai après. Il faut qu'on ait confiance les uns dans les autres et que, eh bien, on soit transparent, qu'on parle en vérité. Donc l'Église a été secouée par ces deux décès. Et après cela, eh bien, l'amour et le respect mutuel a fait qu'augmenter et augmenter davantage. Et Dieu a pu continuer à les bénir comme il le souhaitait. C'est ce qu'on lit dans les versets suivants. Et on peut juste conclure avec ces deux versets trois versets, versets 12 à 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Voilà, le Seigneur pouvait continuer à œuvrer parce que, eh bien, il y avait cet amour, cette transparence, cette vérité qui était rétablie. On va s'incliner dans la prière.